Place Info.
Cette question à la une ce soir, où sont les jeunes? Une partie des organisations étudiantes et lycéennes rejoignent l'intersyndicale contre la réforme des retraites, une partie seulement. Alors la jeunesse, grande absente du mouvement, comment l'expliquer? On en débat ce soir. Et puis ce soir, chacun se fera aussi sa religion. Hein. Sur Jean-Paul Delevoye, épinglé pour plusieurs irrégularités dans sa déclaration de patrimoine et d'activité, soutenu par le gouvernement, est-ce que c'est un simple oubli qui l'a fait ne pas déclarer un certain nombre de ses activités? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? On y répond avec Raphaël Kahn, journaliste à France 24 et présentateur du débat du lundi au vendredi sur France 24. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
À vos côtés, Hélène Pilichowski, journaliste politique, auteur d'une histoire de désamour entre Nicolas Sarkozy et la presse. Hein, pas grand-chose à voir avec le climat social actuel. Vous nous direz ce que vous pensez effectivement de ces débats, hein, et notamment de ces oublis de Jean-Paul Delevoye. Thomas Porte est également avec nous, auteur de Au cœur de la haine, un livre à paraître au janvier aux éditions Arcane 17. Et à vos côtés, Geneviève Garrigos, présidente du think tank Cérix. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Les informés jusqu'à 21h sur France Info. Édouard Philippe vole donc au secours du monsieur retraite du gouvernement. Jean-Paul Delevoye épinglé pour des oublis dans sa déclaration de patrimoine et d'activité. Pour le Premier ministre, la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. L'argument ne tient pas, répond le président de l'association Anticor, Jean-Christophe Picard.
Au bout d'un certain nombre d'omissions, la bonne foi, elle est quand même à relativiser. Alors, si un membre du gouvernement n'arrive pas à remplir un papier de 5 pages, il faut pas le choisir. Là, on est quand même sur des choses assez faciles. On demande à la personne de citer les emplois actuels et les emplois exercés sur les 5 dernières années. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas à la hauteur pour exercer les fonctions importantes de membre du gouvernement. Il y a des conseillers, il peut être conseillé par la haute autorité. Enfin, à un moment donné, il faut quand même assumer ses responsabilités.
Alors Hélène Pilichowski, bonne foi ou pas de Jean-Paul Delevoye, que des oublis?
Alors moi je ne fais pas partie des dénonciateurs, c'est comme ça, quel qu'il soit d'ailleurs. Déjà je n'aime pas me précipiter, je comprends très bien que Jean-Paul Delevoye soit un mets de choix pour tous les opposants de la réforme. Ça c'est formidable, on ne pouvait pas mieux tomber. Et c'est une tuile, effectivement, on peut le dire, c'est une grosse tuile pour le gouvernement.
Ça évidemment tombe au mauvais moment.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire, bien sûr. Je ne sais pas, quand on ne connaît pas le dossier, bien sûr qu'il y a des oublis. Le tout est de savoir s'il s'agit bien d'oublis. Bon, alors Éric Coquerel s'empresse de dire que peut-être que finalement, à l'âge qu'il a, il a des trous de mémoire, comme il dit, qu'il est temps qu'il arrête ses fonctions. Bon, peut-être, je ne sais pas. Ça, à ce niveau-là, je ne crois pas. Je pense que là, peut-être, la seule excuse qu'on peut lui trouver, c'est qu'il est entré au gouvernement le 3 septembre. Hein, c'est donc relativement récent, c'est-à-dire parce que le président a voulu que le haut commissaire aux retraites, celui qui travaille sur les retraites depuis longtemps, intègre le gouvernement pour être à la hauteur d'un ministre, mais il avait le rang de ministre délégué. Donc peut-être que il n'a pas fait une entrée fracassante au gouvernement, il n'a pas fait en même temps que les autres, etc. Il a pensé simplement qu'il était rallié comme ça au gouvernement pour pouvoir mener effectivement plaider sa retraite avec ce titre-là, sa réforme des retraites, pardon, avec ce titre-là. Alors peut-être que lui, il a donné l'essentiel et qu'il n'a pas voulu allonger la liste de toutes les missions diverses effectivement qu'il avait pu accomplir ces derniers temps, et en particulier il a continué quand il était ministre, donc c'est l'affaire de 4-5 mois. Donc voilà, moi je pense que effectivement maintenant, quand on accède à des responsabilités de ce niveau-là, il faut tout passer au peigne fin dans sa vie depuis sa naissance pratiquement jusqu'à ses 73 ans ou 14 ans. 13 ans, il a 73 ans. Voilà, on en est là aujourd'hui.
Et Thomas Porte, négligence, hein, dit Hélène Pilichowski.
Oui, je crois.
Un ministre peut être en l'air après tout.
Oui, mais bon, c'est quand on porte une réforme des retraites, on se doit d'être irréprochable. Je crois qu'un oubli peut être excusé. Aujourd'hui, à chaque jour, son nouveau scandale. Donc je crois que M. Delevoye est totalement disqualifié pour aujourd'hui porter la réforme des retraites.
Même si un nombre de fonctions étaient bénévoles. Hein.
Oui, bien sûr, oui. Mais ça pose problème quand on est bénévole à la fondation de la SNCF et qu'on s'apprête à porter une réforme qui casse le statut des cheminots. Il y a quelque part aussi un conflit d'intérêts. Bon, pour nous, la question, c'est pas de savoir si M. Delevoye doit partir ou pas. Chacun doit assumer ses responsabilités. Nous, c'est la question du retrait de la réforme des retraites. Mais juste une chose, pour un gouvernement qui se voulait quand même celui qui portait la moralisation de la vie publique et politique, ça pose question d'avoir aujourd'hui un ministre qui accumule quelque part les oublis. Ça interroge quand même et ça laisse un sentiment. J'ai échangé au téléphone avec de nombreux cheminots qui disent aujourd'hui être un peu exaspéré puisqu'on les taxe de privilégiés et on se voit avec un ministre qui ne déclare pas des fonctions ou des mandats, qui touche des sommes quand même de 5 500 euros par mois.
Attention, il ne déclare pas à la haute autorité, mais oui, il déclare fiscalement. Quand même. Attention, mais pas de confusion.
Non, mais il n'y a pas de confusion. Mais aujourd'hui, c'est quand même problématique d'avoir ce genre d'éléments qui ressort au moment où on a une discussion très sérieuse sur un projet de société.
Geneviève Garrigos du think tank Cerix, même si les activités étaient bénévoles, il y a conflit d'intérêts, comme le dit Thomas Porte.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut voir fonction par fonction, effectivement, et il peut y avoir doute. Et pour moi, ce que révèle clairement cette affaire, c'est encore tout le chemin qui doit être parcouru en France par les politiques, par toutes les personnes qui ont des responsabilités sur la question de transparence et de déclaration.
On n'en fait pas assez.
En fait, on respecte peut-être. Non, on n'est pas dans le respect. Quand on voit, par exemple, dans la loi Sapin 2, il y avait notamment tout ce qui était déclaration de liens d'intérêt et de relations entre les lobbyistes des entreprises et les politiques. Et on voit la difficulté qu'il y a à mettre en route en face, parce qu'il y a toujours un frein. On est très loin quand même de ce qu'on peut voir dans d'autres pays nordiques. Or, on est à une époque où il y a une demande de transparence très forte. Parce qu'on est dans une époque où il y a une défiance très forte vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions. On voit bien qu'à travers toutes les crises que l'on traverse, il y a un problème de gouvernance, de transparence, qui décide, pourquoi. Et donc, de ce fait-là, effectivement, il faut améliorer et il faut développer cette culture.
Raphaël Kahn, ce soir, c'est Jean-Paul Delevoye qui est fragilisé ou c'est l'ensemble de sa réforme ?
Mais lui-même a dit qu'il envisageait de démissionner. Donc la question clairement se pose, même si pour l'heure il est soutenu par le gouvernement. Il faut se souvenir aussi des conditions dans lesquelles Jean-Paul Delevoye est arrivé au gouvernement, un peu avec le même statut que Martin Hirsch. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui initialement faisait partie le socialisme dont est issu Emmanuel Macron, qui était lui-même des cabinets ministériels. Jean-Paul Delevoye, c'était à l'origine un élu de droite qui a été président de l'Association des maires de France, qui a présidé le Conseil économique et social. On l'a aussi choisi pour ça, pour sa stature et sa carrière de notable. Alors forcément, aujourd'hui, on se rend compte qu'il a un certain nombre de mandats, notamment dans des organismes publics, mais pas que. Ça peut poser la question du conflit d'intérêts, mais d'une certaine manière, on le savait, il n'y a pas que lui qui était au courant.
Le procureur de Paris a demandé des précisions à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Haute Autorité qui se prononcera mercredi 20h10 sur France Info. Guillaume Fariol, le rappel de l'info.
Le corps de l'homme de 76 ans disparu dans le Lot-et-Garonne a été retrouvé. Il a été emporté hier soir par un cours d'eau en crue. Le bilan des intempéries dans le sud passe à 2 morts. Ce soir, 25 000 foyers sont toujours sans électricité en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en Normandie. 11 départements du sud-ouest sont en vigilance orange inondation. 11e jour de grève demain contre la réforme des retraites. 14 lignes de métro sur 16 seront fermées à Paris. Aucun RER A et de grosses perturbations sur la ligne B. À la SNCF, un quart des TGV en circulation, une liaison TER sur 3. Le Premier ministre Édouard Philippe défend dans le Parisien la bonne foi du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, de nouveau épinglé pour des omissions dans sa déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 5 fonctions au total qu'il n'a pas mentionnées. En Seine-Maritime, l'incendie de la raffinerie de Gonfreville-Lorcher, la plus grande de France, est désormais éteint. Une pompe de pétrole brut a pris feu tôt ce matin vers 4h. Et puis 18e journée de Ligue 1 de football, 5 matchs en ce moment, environ 10e minute de jeu. 1-0 pour Reims face à Toulouse, 0 partout, toujours pour Angers et Monaco ou encore pour Amiens-Dijon.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Ce n'est pas le film « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est « Y aura-t-il des trains plutôt à Noël ?» La bataille de l'opinion prend un nouveau tour, tandis que les grèves se poursuivent. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, réclame lui une trêve pour les fêtes de fin d'année.
« Je suis persuadé que le devoir d'une grande entreprise de service public est d'être au rendez-vous des attentes des Français. C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service de tous les Français. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause pendant les fêtes. J'ai récemment pris une décision courageuse de décider de faire une pause des réorganisations pendant le premier semestre 2020. J'ai su faire preuve de pragmatisme et d'écoute. Je vous propose d'en faire de même. J'espère que ce message sera entendu.
Thomas Porte, vous êtes auteur de Au cœur de la haine, à paraître en janvier, mais vous êtes aussi le responsable cheminot au Parti communiste. Est-ce que la demande de Jean-Pierre Farandou vous semble raisonnable ?
Je crois qu'il s'est trompé d'interlocuteur. Sa demande, il devait l'adresser au gouvernement. Il faut pas, chacun est dans son camp. Et la réforme, elle n'est pas portée par les cheminots. Nous, on a demandé le retrait de cette réforme. Et si le gouvernement accède à ces demandes, on est prêt à se remettre au travail immédiatement. Maintenant, une réalité. Je crois que les cheminots.
Vous voyez le piège, hein, c'est délicat tout de même de dire aux Français, vous ne serez pas auprès des vôtres pendant les fêtes.
Non, mais je crois que les cheminots, ils ne sont pas en dehors de la société. Ils ont tous des enfants, des familles. Ils ont envie d'avoir des cadeaux au pied du sapin. Quand on fait grève, ça nous coûte de l'argent et c'est difficile. Donc aujourd'hui, on sent bien le piège dans lequel veut nous entraîner le gouvernement. Maintenant, nous, on dit une chose, retirez votre réforme et réouvrez les négociations sur un vrai projet de réforme des retraites en écoutant nos propositions et on stoppera la grève.
Hélène Pilichowski ?
Moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement devrait plier devant l'ultimatum de la CGT. Et je devrais aussi préciser, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là, les cheminots de la SNCF ne sont pas propriétaires de leur entreprise. Tous les contribuables français participent à la vie de cette entreprise et je ne vois pas pourquoi les contribuables français qui travaillent régulièrement, honnêtement, seraient privés des fêtes de Noël en famille parce que la CGT veut faire plier le gouvernement et veut le scalp d'Emmanuel Macron, c'est tout.
Réponse peut-être de Thomas
Porte.
Oui,
je crois que c'est pas la CGT qui veut faire plier le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Ah bon, c'est quoi ? Il faut qu'il retire sa retraite, sinon on continue la grève inédite.
Ça veut dire quoi ? Matignon parle d'intimidation.
Ça s'appelle un ultimatum.
Non, mais je vous invite à regarder la communication de l'ensemble des organisations syndicales de la SNCF, tout corps confondu, y compris la CFDT.
Il y a des discussions en cours, excusez-moi.
Oui, mais aujourd'hui, on a une plateforme intersyndicale très large qui appelle à la grève. Et ce ne sont pas les cheminots qui sont seulement dans la grève, c'est une bataille qui concerne les salariés du public et du privé. Que ça vous plaise ou non, c'est ça aujourd'hui la réalité.
Raphaël Kahn,
il y a 300 000 personnes dans la rue, c'est pas le pays entier.
Raphaël Kahn.
Hein.
Merci l'âge pivot quand même pour le fonds syndical, parce que c'est vrai que jusqu'à l'annonce d'Edouard Philippe, on ne peut pas dire que l'ensemble des organisations syndicales appellent à la grève. Et d'ailleurs, la CFDT appelle à manifester mardi, mais il n'y a pas d'appel à la grève.
D'ailleurs, question pour vous, Raphaël Kahn. L'objectif, en parlant d'éventuellement de trains qui ne circulent pas à Noël, de Français privés de fêtes, etc., est-ce que c'est de réellement convaincre l'opinion ou c'est de fissurer le front syndical? On peut imaginer que question-là de Noël fasse que la CFDT part d'un côté, la CGT.
Cela dit, Laurent Brun était sans équivoque là-dessus, de la CGT cheminot en disant il y a effectivement, à l'heure qu'il est, il n'est pas question d'une trêve pour la CGT cheminot. Donc c'est pas le gouvernement qui a inventé cette menace.
Et vous évoquez les syndicats et notamment la CFDT cheminot. Pour Rémi Aufrère Privel, qui est secrétaire général adjoint de la centrale, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, parle pour le gouvernement. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure sur France Info.
Il est en service commandé par le gouvernement. Nous considérons donc que le terme de trêve est très mal choisi, puisque chacun sait qu'on ne peut pas suspendre une grève pour la reprendre ensuite, sauf à accepter l'illégalité du respect du préavis de grève. L'objectif, ce n'est pas de gêner ce déplacement formidable et familial et convivial qui rapproche tous les Français, toutes les familles pour le 24 décembre. L'objectif, c'est que ces 8 à 9 jours qui nous restent nous servent à négocier et à faire revenir surtout le gouvernement à la table des négociations, parce qu'en l'occurrence, pour le moment, il s'en est éloigné.
Geneviève Garrigos, présidente du think tank CERIX, il y a répartition des rôles entre le gouvernement et la SNCF.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout de même, c'est qui a choisi la date, l'agenda, c'est le gouvernement qui l'a choisi. Donc déjà, pourquoi ils savaient très bien qu'en arrivant à ces dates, ça allait poser un problème par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi cette date, ça aurait pu être fait plus tard. C'était annoncé depuis un certain temps. Le deuxième point, c'est que effectivement, quand on parle de trêve, alors pour moi, c'est quand même un terme guerrier, et je suis un peu surprise de voir comment on parle de prise d'otages, trêve, etc.
C'est ce que dit Marlène Schiappa, soit dit en passant. Même dans les guerres, il y a des trêves, dit-elle.
Oui, mais ce sont des trêves négociées. C'est-à-dire que, justement, d'abord, on n'est pas dans une guerre, d'accord ?
Et le dit aussi Marlène Schiappa.
C'est aussi des conditions négociées. Or là, on demande juste à une partie de s'arrêter. Donc, effectivement, et c'est très contraignant, c'est très embêtant, mais je pense que, bon, c'est un rapport et chacun doit prendre ses responsabilités. Et je pense que le gouvernement doit aussi les prendre par rapport au choix de l'agenda qu'il a fait.
Vous dites que chacun prenne ses responsabilités. C'est les mêmes termes qui sont utilisés par le Premier ministre demain dans Le Parisien. Raphaël Kahn, on n'est plus dans la main tendue, dans le dialogue. On est clairement dans le face-à-face désormais.
Depuis mardi, on est dans le face-à-face. C'est-à-dire qu'avec cette annonce de l'âge pivot de 64 ans, le gouvernement a clairement
pris, enfin, semble-t-il, hein, la décision d'une réforme maximaliste.
Alors, tout en disant par ailleurs, mais la porte reste ouverte pour des négociations. Hein.
Oui, mais on savait très bien que c'était le casus belli pour la CFDT. Alors, depuis, on s'interroge, parce que c'est vrai, pourquoi le gouvernement a pris ce risque-là? Alors, est-ce que c'est d'aller vers une réforme maximaliste pour derrière pouvoir négocier, se donner des marges de négociation du grain à moudre, comme disait Edmond Maire? C'est la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il s'est pas mis définitivement à dos le sommet de la CFDT et de l'UNSA, c'est la grosse question maintenant.
Hélène Pilichowski, en demandant.
Mais je pense qu'il n'y a pas uniquement un duel entre le gouvernement et les forces syndicales. Elles sont divisées, les forces syndicales. On veut parler de front, mais pour la CFDT, c'est clair. C'est clair que c'est l'histoire de l'âge pivot qui a mis le feu aux poudres et qui a fait claquer la porte de Laurent Berger, qui s'est dit trahi, effectivement, par le gouvernement. Ça, on peut comprendre.
C'est le principe de l'âge pivot ou c'est les 64 ans? Parce que on voit aussi le gouvernement dire, bon, 64 ans, c'est peut-être négociable.
Non, c'est le principe de l'âge pivot qui introduisait, si vous voulez, une notion économique au sein d'une réforme qui, pour laquelle la CFDT était d'accord, si vous voulez, mais elle voulait qu'on change de système, effectivement, mais qu'on n'en profite pas, si vous voulez, pour introduire des notions d'économie, et ça, c'en est une. Donc voilà, donc c'est ce qui a provoqué le conflit avec la CFDT. Mais la CGT n'aurait pas cessé sa grève, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de référence à l'âge pivot dans les annonces du Premier ministre mercredi dernier, la CGT, de toute façon, n'est pas là pour discuter, puisqu'elle exige la réforme. Je ne me trompe pas, c'est ce qui est répété tout au long de la journée. Le retrait de la réforme. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Le retrait de la réforme, la grève continue, etc., etc. En ce qui concerne le calendrier, vous défendez effectivement les grévistes en disant que c'est de la faute du gouvernement qui a mal choisi son calendrier. C'est ce que vous avez dit. Il avait prévu que ça serait avant Noël et que donc ça pouvait être gênant et que donc ça donnait plus de poids.
Pourquoi ce choix?
Non, vous avez dit, est-ce que ce choix est volontaire et un peu, oui, enfin, bon, je sais pas, moi, ça me faudrait vraiment être assez, une volonté un peu malhonnête de la part du gouvernement. Je pense pas qu'on rentre dans un projet comme celui-là, la difficulté que ça représente, puisque tous les Français sont concernés, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et qu'on choisit de faire ça au mois de décembre en espérant qu'il y aura une grève continue qui gênerait les Français.
C'est pas ce que j'ai dit, hein, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le choix de son calendrier.
C'est un raisonnement un peu fallacieux.
Le raisonnement est un peu fallacieux. Ils ont choisi le calendrier, d'accord. Est-ce qu'ils ont intégré, justement, par rapport au calendrier, ce qui pouvait se passer par rapport aux fêtes de fin d'année? Je ne suppose quoi que ce soit. Je dis simplement que c'est eux qui ont choisi le calendrier.
C'est dans quelques instants. Ce débat se poursuivra dans quelques instants. D'abord, les prévisions de trafic pour demain avec Guillaume Fariol, car il est 20h20 et c'est le rappel de l'info sur France Info.
Avec demain un TGV sur 4, une liaison TER sur 3, un Transilien sur 5. Et puis à la RATP, 14 lignes de métro sur 16 seront fermées à Paris. Face à cette grève contre la réforme des retraites, le Premier ministre Édouard Philippe appelle les grévistes à la responsabilité pour Noël. Hier, c'est le patron de la SNCF qui appelait à une trêve du mouvement pendant les fêtes. Le patron de l'association Anticor dénonce sur France Info des omissions injustifiables. Il veut que la justice se saisisse du cas de Jean-Paul Delevoye. Le haut commissaire aux retraites n'a pas mentionné 5 fonctions, bénévoles ou pas, dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le bilan des intempéries dans le sud de la France passe à 2 morts. Le corps de l'homme de 76 ans porté disparu dans le Lot-et-Garonne a été retrouvé. Seconde victime après la mort d'un automobiliste au Pays Basque. Sa voiture a percuté un arbre. Des dizaines de milliers de manifestants antifascistes dans les rues de Rome. Les militants du mouvement des Sardines, comme ils se font appeler, rassemblés contre l'extrême droite italienne. Et puis au Brésil, la déforestation de l'Amazonie a doublé en un an, plus de 560 km² déboisés le mois dernier selon les données satellites. C'est donc 2 fois plus qu'en novembre 2018.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien demain. Entretien donné par le Premier ministre à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Et cette phrase, je ne dirais pas que tout le pays est en grève, ce n'est pas un blocage total, mais c'est pénible. Le Premier ministre demain dans le Parisien, Hélène Pilichowski, c'est pénible, ce n'est pas un blocage total, mais c'est pénible. Ça va pas être de nature à renouer le dialogue, hein.
Pourquoi ce propos-là, celui-là simplement, parce qu'il a dit ça. Donc, je sais pas.
Se renvoyer la pénibilité de la grève.
On n'est pas prêt de trouver, effectivement, là, il y a plutôt une escalade dans la violence verbale, un peu, sauf le Premier ministre. On ne peut pas dire que le Premier ministre, mercredi, ait été menaçant à quelques moments que ce soit. On a reconnu quand même à peu près l'ensemble des Français. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été convaincus, mais personne ne lui a reproché sa violence, ni son côté trop autoritaire ou menaçant. Là, on ne peut pas quand même le créditer d'avoir... Non, pas du tout. Je voulais juste finir tout à l'heure à propos du calendrier choisi pour présenter la réforme par le gouvernement, que pour ce qui était de la réforme du statut des cheminots de l'année dernière, oui, 2018, c'est ça, et ça a été en juin, ça a été présenté en juin, c'est là qu'il y a eu les mouvements de grève avec la fameuse grève perlée, qui était la dernière trouvaille, effectivement, de certains syndicats pour essayer d'ennuyer le plus possible les Français, et que c'était donc au printemps, donc il ne s'agissait pas de Noël, et que ça gênait déjà beaucoup les départs en vacances. Alors c'est peut-être volontaire encore de la part du gouvernement. Il pensait que ça allait réussir. Ça, on peut peut-être le penser. Enfin, voilà, quand on a...
Excusez-moi, mais on est en train de mettre la question des fêtes de fin d'année comme une période très spécifique, etc., où les Français doivent se déplacer. Et tout le monde le met en avant. Je dis simplement qu'effectivement... S'il y a un calendrier, ce ne sont pas les syndicats qui ont choisi le calendrier pour la réforme.
Mais personne n'aura pas
absolument. Et donc, on arrive et on voit bien les annonces qui ont été faites encore cette semaine, etc. Donc, ça s'inscrit dans un calendrier. Je dis simplement que le calendrier a été choisi par le gouvernement et que maintenant, on se retrouve dans une situation qui est assez pénible. Moi, ce que je défends, c'est le droit de grève. Et je pense qu'une société démocratique, même si on estime qu'il y a peu de grévistes, même si on estime que ce sont certains syndicats qui bloquent, etc., ça fait partie des formes que, justement, les citoyens, les citoyennes ont pour manifester leur opposition. Que ce soit dérangeant, moi j'étais, hier soir j'ai dû aller à Nantes pour une remise de diplôme, j'ai dû partir très tôt le matin parce qu'il y avait un TGV très tôt le matin, je suis rentrée très tôt aujourd'hui, évidemment que c'est gênant, mais... C'est comme ça. Et je pense qu'on doit défendre ces droits parce qu'ils sont fondamentaux pour moi.
Thomas Porte, vous qui êtes en contact régulier avec des cheminots, pourquoi c'est compliqué de suspendre la grève et de reprendre à la rentrée, par exemple ?
Parce qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle est sur un retrait de projet de réforme. Et ce sont pas les syndicats, ils appuient pas sur un bouton pour déclencher une grève. Ce sont les salariés collectivement qui décident aujourd'hui dans les assemblées générales.
Le droit de retrait, ça marchait pas mal, hein.
Oui, mais le droit de retrait, c'est différent du droit de grève, c'est autre chose. Donc on va rentrer sur cette discussion si vous voulez, mais c'est pas la question du soir. Aujourd'hui, pourquoi on retirerait et on mettrait une trêve et on suspendrait la grève alors qu'il y a aucune, j'ai envie de dire, annonce du côté du gouvernement qui est de nature à nous faire retirer et suspendre cette grève. Aujourd'hui, le mot d'ordre, il est clair. Et là-dessus, on a été transparent. Nous, ce qu'on réclame, c'est le retrait total de cette réforme.
C'est le retrait ou rien, quitte à risquer le rien, pour le coup.
Comme ça. C'est le retrait total, aujourd'hui. Et on ne sait pas, aujourd'hui, qui peut dire quel va être l'avenir de cette réforme des retraites. Personne. Mais les cheminots, et je crois largement les salariés de ce pays, l'ont exprimé et vont encore l'exprimer mardi prochain dans la rue. Il y aura beaucoup de monde, et y compris des organisations de jeunesse qui ont appelé à se mobiliser, pour demander un autre projet de société. C'est ça la question qu'il y a derrière ce projet de réforme. C'est dans quelle société on veut vivre.
Il y a eu 339 000 personnes dans la rue le 10 décembre.
Et un nouvel appel à manifester la semaine prochaine.
Mais d'accord, qu'il y ait des appels à manifester, je suis d'accord, si vous voulez. Mais il ne faut pas prendre à partie quand même la France entière au nom de 339 000 manifestants, excusez-moi.
On parle du respect du droit de grève. Alors, il n'y a pas eu d'étude faite depuis. En 2013, la DARES estimait à 18% le nombre d'agents des transports publics syndiqués. Ça veut dire que, parce que aujourd'hui, la CGT et Sudrail sont majoritaires chez les seuls conducteurs, on assiste à une paralysie totale du trafic ferroviaire. Est-ce que là, il n'y a pas une exagération ou un problème ?
Mais vous savez que le droit de grève chez les cheminots, il a déjà été quelque part remis en cause, puisqu'ils doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance pour être dans la mobilisation, ce que nous avions déjà dénoncé à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est pas tous les cheminots conducteurs de train ne sont pas à la CGT et Sudrail. Il y a des cheminots qui sont aujourd'hui conducteurs de train qui sont grévistes en étant salariés et préoccupés par l'intérêt général et contre cette réforme des retraites. Donc aujourd'hui, c'est un faux débat. Et je crois qu'il n'y a pas que des cheminots grévistes chez les conducteurs de train. Tous les corps de métier sont mobilisés, et y compris l'encadrement, qui est aujourd'hui vent debout contre cette réforme des retraites.
Parce qu'il y a des accords entre les cheminots pour ceux qui sont plus en grève.
Non, il n'y a pas de grève par procuration chez nous, ça n'existe pas.
Il y a des ententes quand même pour qu'il y ait plus de...
Non, absolument pas, mais c'est faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui ?
Parce que
quel élément de preuve avez-vous pour avancer ça?
Parce qu'il y a des cagnottes qui sont constituées de manière à ce que les conducteurs, qui sont les plus nocifs, effectivement,
c'est absolument faux aujourd'hui. Quand on fait
pourquoi il y a plus de
le débat qui s'engage entre Hélène Pichot, ce qui est au
bord. Y a-t-il des cas à la RATP de conducteurs empêchés de prendre leur service, par exemple, par les grévistes? Comme on a pu le voir sur des images.
Moi aujourd'hui, j'ai pas d'éléments de nature à dire ça. Et moi, je vais parler des cheminots puisque je suis de ce métier-là. Nous aujourd'hui, on n'empêche pas un salarié qui veut travailler d'exercer son métier. Ça n'a jamais été dans les habitudes des syndicats de faire ça. Chacun est libre d'exercer son droit de grève ou pas, et c'est une réalité.
20h28 sur France Info, bientôt 20h28, et le débat qui se poursuit, notamment après le journal, sur y aura-t-il des trains à Noël. Tiens, où est la jeunesse, les organisations jeunes, grandes absentes du mouvement, sont-elles résignées à ne pas avoir de retraite? On posera la question d'abord la météo et le journal sur France Info.
Salut l'info, l'actualité racontée aux 7-11 ans. Un podcast original France Info avec le magazine Astrapi.
Cette semaine, on explore l'univers Star Wars.
Oui, les Jedi.
Et le pôle Nord, où deux aventuriers ont été secourus. On explique aussi le système des retraites.
Dossier, interview, confidence.
On peut m'insulter, on peut faire tout, mais par contre, on parle pas de ma couleur de peau, ça me rend colère.
Salut l'info, présenté par Estelle Faure, un podcast original à retrouver chaque samedi sur astrapi.com, les applis Bayam et Radio France et franceinfo.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
France Info, les prévisions météo avec vous Jean-Michel Golinski.
De meilleures conditions d'ensoleillement demain pour le sud de l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et du Golfe du Lion, la frontière italienne, avec tout de même un bémol à signaler pour la Corse, où le vent sera sensible, sous un ciel plus nébuleux sur la façade ouest de l'île. Également des entrées maritimes à signaler, elles seront plus denses en fin de journée, du Roussillon aux côtes varoises. Du nord de l'Aquitaine au Poitou-Charentes et du Massif central au sud du bassin parisien jusqu'aux frontières du nord-est, ciel souvent gris et faiblement pluvieux. Plus haut, au nord d'un axe pays nantais, Île-de-France, Ardennes, nébulosité et aspect du ciel très changeant avec une alternance de trouées et d'averses. Et puis, on notera sur ces régions septentrionales un vent de secteur ouest souvent assez fort, avec des températures partout au-dessus des gelées en cours de nuit. Les valeurs vont culminer l'après-midi entre 10 et 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 18 dans la partie sud.
(20h30 sur France Info, l'information avec Olivia Ferrandi. Bonsoir Olivia.
Bonsoir. La réforme des retraites est l'exception des policiers confirmés aujourd'hui. Ils conserveront bien le droit de partir plus tôt, qu'ils soient sur le terrain ou dans les bureaux. Après des négociations jeudi, le ministre de l'Intérieur leur a écrit aujourd'hui « La fonction même de policier les expose au risque », estime le ministre Stéphane Peyre.
Le courrier de Christophe Castaner confirme un accord officieusement conclu jeudi dernier entre la place Beauvau et les syndicats de police. La dangerosité du métier leur est reconnue, compte tenu des risques auxquels ils sont exposés durant, mais aussi en dehors de leur service. Les policiers qui assurent des missions de protection de la population bénéficieront toujours d'un départ à la retraite anticipé. Les gardiens de la paix, agents du maintien de l'ordre, tous ceux qui travaillent sur la voie publique, ne sont pas les seuls concernés. Les postes qui occupent des fonctions opérationnelles, administratifs ou non, pour assurer la sécurité au sens large, conserveront leur régime spécial. La bonification de trimestre actuelle, offerte tous les 5 ans, sera maintenue. La place Beauvau va devoir donc mettre la main à la poche pour financer la mesure. Christophe Castaner éteint donc le feu qui couvait dans la police face à la perspective de la réforme de leur régime spécial.
Et plusieurs ministres et secrétaires d'État indiquent par ailleurs que l'âge pivot à 64 ans est un paramètre négociable. De son côté, Édouard Philippe pense que la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Ce sont les mots du Premier ministre dans le journal Le Parisien. Alors que deux nouvelles fonctions occupées mais non déclarées par le haut-commissaire chargé des retraites viennent d'être découvertes, l'une à la tête de l'Observatoire régional de la commande publique dans les Hauts-de-France, l'autre au sein d'un groupe de réflexion situé en Suisse. Au total, 5 fonctions non déclarées ont été recensées en une semaine. Alors du côté des transports, n'espérez pas faire vos courses de Noël demain dans Paris en utilisant le métro. Toutes les lignes classiques seront fermées. Seules les lignes automatiques 1 et 14 seront en circulation. Le trafic des bus, en revanche, devrait être assuré à 60%. Quant à la SNCF, elle prévoit 25% de TGV en circulation ce dimanche, 10% seulement des intercités et 3 liaisons régionales sur 10 assurées, la plupart du temps en bus. Le corps d'un homme de 76 ans retrouvé ce soir à Espiens, près d'Agen. Il était porté disparu depuis hier soir après la crue brutale d'un petit cours d'eau. 11 départements du sud-ouest, dont le Lot-et-Garonne, restent en alerte orange ce soir après les fortes pluies de ces dernières heures. Un skieur de 30 ans, gravement blessé cet après-midi lors d'une avalanche à Vars dans les Hautes-Alpes, l'un des départements signalés également par Météo France ces dernières heures en raison des vents violents. La coulée de neige s'est déclenchée à 1800 mètres d'altitude sur le domaine skiable de la commune lorsque 4 skieurs se sont engagés sur une piste qui était pourtant fermée. À l'international, 2 ans de prison pour Omar El-Béchir, condamné aujourd'hui pour corruption. L'affaire concerne de l'argent qui aurait été versé par l'Arabie Saoudite, l'équivalent de 7 millions d'euros retrouvés au domicile de l'ancien dictateur du Soudan. Omar El-Béchir qui a quitté le pouvoir sous la pression de la rue et de l'armée en avril dernier. D'autres verdicts attendent l'ancien dirigeant poursuivi également par la Cour internationale de justice pour les crimes commis au Darfour. Le sport, la Ligue 1 de football, Marseille sauve l'honneur avec un match nul un partout à Metz. Le dauphin du Paris Saint-Germain jouait chez le premier relégable ce soir, mais l'OM était mené 1-0 à la mi-temps. Les Marseillais sont parvenus à égaliser en seconde période. La Coupe d'Europe de rugby, la 4e journée. La Rochelle s'impose chez les Écossais de Glasgow 12-7. Cet après-midi, Lyon a été battu par les Italiens de Trévise 25-22. Et Toulouse a dominé Montpellier 26-18. France Info, 20h33. La suite des informés, c'est tout de suite avec Neila Latrousse.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Avec toujours Raphaël Kahn, journaliste à France 24 et présentateur du débat du lundi au vendredi sur France 24. Du coup, Hélène Pilichowski, journaliste politique, Thomas Porte, auteur de Au cœur de la haine, apparaître en janvier aux éditions Arcane 17, et Geneviève Garrigos, présidente du think tank CERIX. Des organisations lycéennes rejoignent donc l'intersyndicale contre les retraites furieuses que les générations nées avant 75 ans soient exemptées. Ce matin, Lofprit Singh, secrétaire national de l'UNEL, était sur France Info.
Le gouvernement est en train d'opposer les jeunes aux personnes âgées. Et si la réforme était si formidable que ça, pourquoi ils l'appliqueraient pas aux policiers aussi? Pourquoi ils sont obligés de faire une clause du grand-père en fait pour casser le mouvement social d'une grande ampleur qui est en cours? S'ils sont obligés d'opposer les générations, c'est puisqu'en fait forcément il y a du mauvais dans la réforme et que cette réforme-là c'est une régression sociale qui est juste énorme et ça va être nous les jeunes qui serons les premiers à en pâtir.
Raphaël Kahn de France 24, on entend l'UNEL, hein, l'Union Nationale des Lycéens, qui elle s'inquiète de la réforme. Et pourtant, quand on regarde dans la rue, dans les médias, dans les débats qui ont lieu, la jeunesse, on a l'impression que c'est un peu la grande absente du mouvement.
C'est vrai, parce qu'on a, on voit essentiellement effectivement des agents des transports publics manifester. Pour autant, ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que c'est un peu l'argument massue. Si, quoi qu'on pense de la réforme d'ailleurs, hein, qu'elle soit nécessaire ou pas, si effectivement on la juge nécessaire, notamment selon un principe d'équité, la retraite à point, mettre tout le monde effectivement sous la même règle, pourquoi en exclure les générations nées avant 1975? Moi je suis 74, j'aimerais bien en profiter de la retraite si elle est géniale.
Hélène Pilichowski, c'est un argument qui marque cet argument de l'âge. Hein. C'est vrai que pourquoi il devrait y avoir
je pense que les jeunes, nos enfants, donc, n'ont pas attendu le gouvernement d'Emmanuel Macron pour faire des reproches sévères, même parfois. Je peux vous dire que j'en reçois moi-même, hein, de mes propres enfants, donc ils sont en âge de travailler, bien sûr, et qui disent, vous n'avez été bon qu'à une seule chose, c'est à faire des dettes. Ah, bah ça, pour ça, vous êtes fort, et nous, on va être obligés, non seulement on n'aura pas de retraite, mais on aura vos dettes à payer par ailleurs.
L'argument vous agace presque. Je sens une pointe d'agacement.
Parce qu'on a parfois des discussions, effectivement, assez serrées sur le sujet, parce que, ah, bah oui, bien sûr. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'est plus là que pour payer des retraites. Alors, je crois que les jeunes, à moins d'être briefés et rebriefés, effectivement, par certaines organisations syndicales qui envoient des tracts, qui tractent les jeunes, etc., peut-être que, bon, certains, bon, et puis ils ont le droit de penser que la réforme est épouvantable, que ça va, bon, etc., que les pauvres jeunes vont être lésés. Non, mais
Ils ne sont pas lésés par la réforme?
Non, je ne crois pas. C'est pas le but, au contraire. Ben, bien sûr, ils devront faire des efforts, mais c'est parce qu'on est dans une situation sur le plan démographique dont tout le monde sait très bien que ça ne pourra plus être l'Eldorado comme avant, quand il y avait 4 personnes en activité pour une à la retraite.
Il faut mettre tout le monde sous le même régime. Pourquoi créer des...
Mais non, mais petit à petit, c'est une affaire d'évolution, ça dépendra. Non, mais moi, je ne crois pas qu'il y ait là-dessus une gêne essentielle. Je ne crois pas. Et je ne crois pas que nos jeunes, quand on leur dit, quand le Premier ministre, Édouard Philippe, a dit l'autre jour qu'il voulait être sincère là-dessus et juste. justement ne pas laisser s'accumuler des dettes et que c'est pour ça qu'ils prenaient une mesure qui est le fameux âge pivot, si vous voulez. Ouais. Voilà, une mesure d'âge. Bon, et ben très bien, je vois pas ce qu'il y a de... Je comprends que les jeunes ne soient pas motivés. La convergence des luttes, c'est pas pour demain matin encore.
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on parle des jeunes comme on parle des femmes, comme on parle de ceci, et on fait des grands groupes, alors qu'au sein des jeunes, il y a des différences. Il y a les lycéens, il y a les chômeurs, il y a ceux qui travaillent, il y a des âges différents, il y a ceux qui sont en milieu urbain, rural, etc. Ouais. Donc c'est très difficile de parler des jeunes. Par contre, moi je suis allée dans les différentes manifestations, pas en entier, mais pour une très grande partie, et il y avait des jeunes. C'est-à-dire qu'il
y a des jeunes, mais les organisations sont aussi
J'ai vu des lycées qui étaient représentés, j'ai vu des facs qui étaient représentés, surtout la première, il y en a eu moins le 10, d'accord? Et je pense que de toute façon, ils attendent pour marcher là. Ce que je voudrais quand même dire, parce qu'on parle des jeunes qui, moins de solidarité, etc., qui seraient... Et on parle de ce qui se passe en France sans regarder, qu'en même temps, au niveau mondial, partout il y a des manifestations, partout il y a des mouvements sociaux. Et moi, ce qui m'a frappé, et je veux prendre juste très rapidement...
Il n'y a qu'en France qu'on a ce régime de retraite par répartition qui aujourd'hui garantit ce niveau de retraite. Hein.
Oui, non. Ce que je veux dire par là, c'était par rapport aux jeunes manifestations retraite. Et moi, il y a deux mouvements sociaux qui m'ont particulièrement intéressée si on fait le parallèle. Bien sûr, c'est pas le même type de retraite, mais c'est, vous prenez le Nicaragua le 18 avril de l'année 2018, quand les mouvements ont éclaté et ça fait plus de 300 morts, etc. Qui sont sortis? C'était une réforme des retraites. Qui sont sortis? Les grands-parents et les petits-enfants, en solidarité, parce qu'il y a une notion solidaire, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas tout seuls. C'est l'intergénérationnel. Le dernier exemple en date, c'est le 21 novembre, c'est la grande grève manifestation qu'il y a eu en Colombie, là encore il y a eu des morts, qui sont sortis, beaucoup aussi les étudiants, les jeunes, les grands-parents, et quels sont les trois principaux points des réformes que présente le gouvernement? La suppression du fonds public, c'est-à-dire la privatisation des retraites, l'augmentation de l'âge de la retraite, avec l'âge pivot, on y est, la flexibilisation du travail, c'est ce qu'on a fait précédemment. Et en fait, il y a une association, et il ne faut pas oublier que c'est, quel que soit, les jeunes se sentent concernés par les retraites, et moi je parle beaucoup avec des jeunes en France, etc., et partout où je vais, ils se sentent concernés, il y a une question de solidarité, et il y a aussi un intergénérationnel qui fait qu'ils ne se sentent pas exclus du débat et ils veulent en prendre leur part aussi. Donc,
les mouvements d'ampleur, d'ailleurs, qui ont fait flancher des gouvernements, hein, comme le CPE, c'est des mouvements où il y a eu massivement des jeunes dans la rue. Thomas Porte, là, certes, il y a des jeunes, mais ce n'est pas eux qu'on voit le plus, ou en tout cas qui ont le plus la parole.
Je crois que je partage ce qui vient d'être dit. J'ai fait aussi toutes les manifestations. Il y avait des jeunes qui étaient représentés, alors de différents niveaux selon les journées de mobilisation. Mais je crois qu'en vérité, les jeunes ont très bien compris ce qui allait se passer avec cette réforme des retraites. On parle d'âge d'équilibre à 64 ans. On sait que cet âge va reculer au fur et à mesure et que quand ils vont arriver sur le marché du travail, ça va encore être décalé. Et on leur promet un avenir de précarité et de paupérisation. Il faut savoir quand même aujourd'hui, l'âge moyen pour obtenir un CDI, c'est 29 ans. Donc après, à quel âge on part à la retraite? Avec quel niveau de vie? Et moi, j'aimerais qu'on en finisse avec une chose. On présente cette réforme simplement sur le côté financier, en fixant la part du PIB, en parlant du fait que ce n'est plus aujourd'hui tenable. Et les jeunes, aujourd'hui, se rendent bien compte que la France est un pays qui produit des richesses. Simplement, il y a une part qui est aujourd'hui mal répartie entre le capital et le travail. Mettons certains à contribution et on pourra financer un système de retraite décent pour l'ensemble des salariés de ce pays.
Ah, ça, c'est un projet politique qui va bien au-delà de la retraite, Thomas Porte. Et les débats se poursuivront, hein, puisqu'on rappelle que mardi a lieu un nouvel appel à la grève. Et on verra, Hélène Pichowski a relevé les chiffres des derniers mouvements. On verra combien ils seront mardi, on en débattra dans les informés et qu'a priori dans la semaine d'autres ouvertures pourraient être faites par le gouvernement. 20h bientôt 41 sur France Info, un léger retard, hein, mais le rappel de l'info car Guillaume Fariol lui est bien à l'heure.
L'homme emporté par un cours d'eau en crue dans le Lot-et-Garonne retrouvé mort. Il était porté disparu depuis hier soir. 11 départements sont toujours en vigilance orange inondation dans le quart sud-ouest de la France. Autre conséquence de ces intempéries, les coupures d'électricité. 25 000 foyers sans courant en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Normandie. La bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Les mots d'Édouard Philippe dans Le Parisien. Il vient en aide au haut commissaire aux retraites. La liste de ses omissions dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'allonge. Jean-Paul Delevoye n'a pas mentionné 5 fonctions au total. La grève contre la réforme des retraites se poursuit, 11e jour demain, avec toujours de grosses perturbations dans les transports. 14 lignes de métro sur 16 seront fermées à Paris. À la SNCF, un quart des TGV en circulation, une liaison TER sur 3, un Transilien sur 5. L'incendie à la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher près du Havre est totalement éteint. Il s'est déclaré tôt ce matin sur ce site classé Céveso. Plusieurs communes touchées par l'immense panache de fumée, pas de toxicité selon la préfecture. Et puis 5 matchs en cours pour la 18e journée de Ligue 1 de football, c'est bientôt la mi-temps. Un partout entre Amiens et Dijon, 1-0 pour Nantes face à Nîmes, même score pour Reims qui mène contre Toulouse. Avant cela, match nul pour l'OM, un partout contre Metz.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
C'est la vidéo qui enflamme le web. La ministre des Sports exfiltrée d'un stade en région parisienne après avoir été chahutée par des supporters. Et colère de Roxana Maracineanu sur France Info.
Je suis en colère parce que je pense que personne n'a le monopole du social et surtout pas ces quelques supporters qui prennent le football en otage, clairement. Aujourd'hui, entendre moi qui viens de la société civile, moi qui suis ancienne sportive, aujourd'hui ministre des Sports, t'as rien à faire ici, on est chez nous, va-t'en, t'es pas chez toi. Dans un stade de foot, je vais voir des manifestations sportives en tant que citoyenne et en tant que ministre où je veux. Et ce type de manifestations qui m'oblige à quitter un stade sont pas acceptables à mes yeux.
Et entre-temps, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a présenté ses excuses à la ministre. Alors on précise le contexte, hein, la situation s'est envenimée alors que Maracineanu échangeait avec un supporter. Ça veut dire, Thomas Porte, qu'il est de plus en plus difficile d'aller au contact pour la majorité?
Oui, je crois qu'il est de plus en plus difficile d'aller au contact. Cet incident, il révèle d'une tension politique dans le pays et le fait qu'une majorité des Français, je le répète ici, ne sont pas favorables à cette réforme et on ne peut pas extraire le sujet de la réforme des retraites de tout ce qui se passe autour. Et quand une ministre se déplace, effectivement, elle est interpellée sur ces questions-là. Maintenant, il faut aussi relativiser, on n'est pas passé sur un incident extrêmement grave. C'est pas certainement des choses qui sont à faire ou à accepter, mais je crois que c'est aussi le symbole d'une colère populaire et du fait que les gens ne sont pas écoutés depuis des mois et des semaines par ce gouvernement qui a multiplié la politique des petites phrases. Et aujourd'hui, quelque part, c'est le retour du bâton et la colère, elle s'exprime et de façon parfois incontrôlée.
Raphaël Kahn.
Faut quand même préciser, s'agissant de Roxana Maracineanu, qu'elle s'est mise à dos une partie des supporters de football en décidant d'interrompre des matchs de football suite à des injures homophobes.
C'est pas que le climat social, vous dites.
Oui, bah oui, propos pour lesquels ce même Noël Le Graët s'est désolidarisé du gouvernement, en des termes assez inélégants, il faut bien le dire. Donc le voir aujourd'hui, si vous voulez présenter des excuses, bon, tant mieux. Mais c'est vrai que le climat n'avait pas non plus été arrangé par cette affaire.
Hélène Pilchowski, est-ce que les stades ne sont pas aussi, d'une certaine façon, le thermomètre des sociétés, hein? C'est là que...
Oui, il y a longtemps qu'il y a des violences autour du football, à l'issue de certains matchs, pendant les matchs, etc.
Spécifique au football pour vous?
Un peu plus, oui, quand même. Hein. On a connu l'époque, enfin en France pas tellement, mais enfin l'époque des hooligans, des choses comme ça, il y a souvent eu, après les matchs, je me souviens d'une victoire de, je sais pas, c'était l'Algérie, je sais pas, je suis tellement mal le football que je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a eu plusieurs occasions en France où, à l'occasion de matchs de foot, il y avait de la violence. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est plutôt la montée de la violence d'une façon. Je trouve que c'est symbolique de ce qui se passe à tous les niveaux de la société. Que vous soyez un simple citoyen, que vous traversiez la rue et que vous fassiez menacer par une moto, etc., parce que vous êtes pas au bon endroit du passage pour les piétons, c'est constamment maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence dans le pays. Je vois pas en quoi Emmanuel Macron et son gouvernement, comme vous le dites bien, sont responsables de ça. C'était déjà ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes. La colère, la colère, la colère. On parle de la colère sans arrêt. On est le pays où, franchement, on est envié partout. Quand vous allez un peu à l'étranger, on envie la situation des Français. Il y a des Français qui souffrent, je suis d'accord, mais on est 66 millions de Français. Il n'y a pas 66 millions de Français qui souffrent, c'est pas vrai. Donc la colère, je trouve qu'on a eu beaucoup d'indulgence avec cette colère permanente qu'on avançait parce qu'on jette des pavés partout et puis effectivement on s'en prend à une ministre des sports. Je trouve ça particulièrement déplaisant et déplacé.
Vous interpellez Thomas Porte, hein, ce n'est pas spécifiquement Emmanuel Macron. Réponse Thomas Porte.
Oui, je crois qu'on peut parler de la violence et de la colère, mais celui qui a utilisé la violence pour réprimer le mouvement social, c'est quand même le pouvoir en place, c'est Emmanuel Macron.
Pour vous c'est lui qui a radicalisé la société.
Effectivement, mais vous avez vu la répression policière à concernant les gilets jaunes. Mais effectivement, on peut avoir le décompte des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont été victimes de violences.
Mais
policière.
Quand on sème la violence, parfois il arrive qu'il y ait des accidents très regrettables, je suis d'accord.
Mais à ce niveau-là, on ne parlera pas d'accident.
Mais quand on lance des pavés contre les policiers, il peut arriver qu'il y ait parfois un accident, et c'est très regrettable.
Si je puis me permettre, et là il y a eu de très nombreux rapports, et y compris la haut rapporteuse, la haut commissaire aux droits de l'homme l'a signalé, ça fait beaucoup réagir en France. Si vous, je ne vous ai pas interrompu, et je suis la première à porter la parole sur ce qui se passe au Chili. Donc c'est pas vous qui allez m'apprendre ce qui se passe au Chili. Je le sais très bien. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des morts au Chili qu'on ne doit pas dénoncer ce qui s'est passé ici. Or tous les rapports le démontrent. Tous les gens qui ont enquêté sur le sujet, parmi les gens, ceux qui ont reçu l'utilisation des LBD, recevoir une balle comme ça en pleine tête, normalement on ne tire pas sur la tête. Et quand on regarde le nombre de blessés, le nombre d'arrestations, etc., il y a eu un usage excessif de la force et personne ne peut le nier. Donc il faut pas dire ceux qui ont tiré des pavés, parce que ceux qui ont pris, et vous regardez
Sais, j'ai suivi ça de très près, j'ai regardé aussi, croyez-moi, bien sûr.
Alors on ne peut pas dire que c'est... Voilà, la réponse policière a été extrêmement violente. Et moi, ce que je trouve dommageable, c'est qu'on a vu depuis des années et des années aussi comment... Il y a au niveau du discours politique, et dans ce cas-là, ce n'est pas approprié, mais on voit comment il y a une dégradation de la relation entre le citoyen et ses élus politiques dans la façon de se parler.
Mais que je comprenne bien, pour vous, la responsabilité, elle est plus du côté des gouvernants, elle est plus du côté des gouvernés.
Non, là, je suis pas en train de dire ça. Je dis que effectivement, il faut quand on
vous avez
voit...
dit des années et des années.
Oui, ça fait des années qu'en France, il y a eu des phrases célèbres, etc., où on a vu comment il y avait une détérioration dans la façon qu'on avait de se parler entre les politiques et les citoyens. Et c'est vrai qu'il faudrait remettre aujourd'hui du sens et du respect dans les relations qu'il peut y avoir de part et d'autre. Là, pour moi, en plus, je trouve que c'était assez sexiste, je pense, parce que en plus, cette femme s'est retrouvée entourée de gens qui étaient quand même beaucoup plus baraqués qu'elle, etc. Et j'imagine ce qu'elle a dû ressentir aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir des discussions et pas rentrer dans cette confrontation. Ça, c'est très sincèrement.
Raphaël Kahn, à quoi on a assisté avec...
C'est effectivement anormal. Et je pense qu'encore une fois, il y a un contexte qui est lié au climat social, mais pas seulement au passif, effectivement, ces derniers temps, sur les violences autour des matchs. Pour autant, la violence dans le football, c'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours existé. On se souvient. Enfin, voilà, à mort l'arbitre de Moki, c'est les années 70 déjà. Donc, et on peut remonter encore avant. Plus généralement, est-ce qu'aujourd'hui, les membres du gouvernement sont en danger ou dans l'incapacité d'aller au contact de la population? De la même manière, on se souvient que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu le même type de difficultés. Et on peut même remonter à Jacques Chirac. On peut se souvenir que... du temps où il était président de la République, Jacques Chirac lui-même a eu des difficultés à aller dans certains quartiers en France. Donc, est-ce que vraiment le climat se dégrade? Est-ce que c'est différent aujourd'hui de ce que c'était il y a 20 ans? Pas forcément.
Et en tout cas, les commerçants soulignent que ce climat des gilets jaunes, notamment de ces conflits sociaux, peuvent avoir un impact économique. Le ministère de l'Économie a annoncé d'ailleurs aider notamment les professionnels du tourisme. Je voulais ajouter cette petite information pour clore le débat sur les grèves et sur la réforme des retraites. Y aura-t-il des trains à Noël? Eh bien, on saura dans quelques jours, lorsque les prévisions seront dévoilées par la SNCF a priori. En milieu de semaine prochaine, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info, Guillaume Fariol.
Et justement, Édouard Philippe appelle les grévistes à la responsabilité pour Noël. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment, dit le Premier ministre dans un entretien aux Parisiens. La liste s'allonge. Ce sont 5 fonctions au total que Jean-Paul Delevoye n'a pas mentionnées dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ça devient inexcusable, dénonce sur France Info le député La France Insoumise Éric Coquerel. Le bilan des intempéries dans le sud passe à 2 morts. Le corps de l'homme disparu dans le Lot-et-Garonne retrouvé. Il a été emporté hier soir par un cours d'eau. Autre victime, un automobiliste au Pays Basque. Il a percuté un arbre tombé sur la chaussée. La fin de l'incendie à la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher près du Havre. Le feu a duré presque 13 heures. Il est désormais totalement éteint. En Italie, des dizaines de milliers de sardines rassemblées à Rome. C'est le nom donné aux partisans d'un tout jeune mouvement antifasciste créé il y a un mois. Manifestation pour protester contre l'extrême droite et ses idées. En football, football, c'est la mi-temps sur les pelouses de Ligue 1. 5 matchs en cours, un partout entre Amiens et Dijon. 1-0 pour Nantes face à Nîmes. 0 partout toujours pour Angers, Monaco et Brest-Nice.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Propos prémonitoire d'Hélène Pilichowski, vous évoquiez l'Algérie il y a quelques instants, on va en parler, France-Algérie, quelle relation à l'avenir? On a vu de premières escarmouches au lendemain de l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, c'est le nouveau président algérien. Emmanuel Macron a pris note de sa victoire et le président algérien lui a répondu en quelque sorte en langage fort peu diplomatique.
J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s'ouvrir entre les autorités et la population.
Je ne lui répondrai pas. Qu'il fasse la promotion de son idéal souhaité dans son pays. Moi, je suis élu par le peuple algérien et je ne reconnaîtrai que le peuple algérien.
Raphaël Kahn, ça démarre sur les chapeaux de roue.
Oui, bon, j'ai une certaine timidité à évoquer ce sujet avec vous, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, ma chère Neila. Mais néanmoins, c'est vrai, quand on écoutait hier le discours, ça fait un peu figure imposée de la part d'Abdelmadjid Tebboune. C'est sûr qu'on s'assure un succès de salle, disons d'une certaine manière, hein, en répondant de cette manière à Emmanuel Macron, dont d'ailleurs la phrase a été un peu sortie du contexte, parce que s'il a pris note effectivement de la victoire, s'il s'est contenté de prendre note de la victoire d'Abdelmadjid Tebboune sans le féliciter de manière très clair. Pour autant, durant sa réponse qui a duré un peu plus d'une minute, Emmanuel Macron est resté extrêmement précautionneux, ce qui illustre d'ailleurs assez bien la difficulté pour un président français d'évoquer la situation aujourd'hui en Algérie. Si l'on est du côté de la rue, eh bien, on prend le risque effectivement d'être utilisé par le pouvoir comme un épouvantail. Et de la même manière, eh bien, on peut pas évidemment prendre le parti du pouvoir. On se souvient d'ailleurs de l'expérience assez cuisante de Michel Alliot-Marie qui avait pris fait et cause pour le pouvoir tunisien. Ça lui avait pas porté bonheur. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Emmanuel Macron s'est effectivement contenté de prendre note de la victoire d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a invité à nouer le dialogue avec le Hirak, le mouvement de contestation. Ce que d'ailleurs Abdelmadjid Tebboune s'est empressé de faire en expliquant que c'était sa première priorité, tout en disant qu'il ne répondrait absolument pas à la France.
Geneviève Garrigos.
Oui, c'est effectivement assez difficile parce qu'en plus. Que va-t-il se passer en Algérie aujourd'hui? C'est-à-dire, à moins d'avoir une boule de cristal, c'est extrêmement complexe.
Vous voulez dire que l'élection ne règle rien
C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui déjà le taux d'abstention et qu'on ramène le nombre de voix, donc ça ferait à peu près un quart, à peu près, hein, des Algériens qui auraient voté pour ça. Et or, il faut voir que ces élections étaient destinées à légitimer le nouveau pouvoir en place. Donc, quelle est la légitimité avec une abstention aussi faible, etc. D'autant que ce que réclamaient depuis des mois et des mois, depuis des mois, les manifestants du Hirak, c'était de changer, comme on dit aujourd'hui, de logiciel, c'est-à-dire de sortir de l'ère Bouteflika, etc. Or, on sait très bien que les 5 candidats à la présidentielle étaient justement venaient de cette époque-là. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça s'est inscrit dans un contexte de répression importante et d'arrestation massive. Certes, ça a commencé en juin, mais on l'a vu là pendant la période électorale, hein, depuis l'annonce de la date électorale. Je crois qu'il y a plus de 140 personnes qui ont été arrêtées, notamment des militants pro-démocrates, des défenseurs des droits humains, les journalistes ont été harcelés, etc. Donc, c'était déjà pas en elle-même des élections pour rassurer la population. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont décidés à continuer à manifester, qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Comment va réagir le pouvoir? Est-ce qu'il va réussir justement à entamer le dialogue? C'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui.
Thomas Porte, la France peut fermer les yeux sur ces arrestations dont parle Geneviève Garrigos?
Non, je crois qu'elle doit pas fermer les yeux. Effectivement, Emmanuel Macron marche un peu sur des œufs dans ses déclarations avec le pouvoir algérien. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. La question électorale, où les 5 candidats étaient issus du pouvoir de l'ancien pouvoir, n'ont rien réglé sur les aspirations de démocratie et de justice sociale du peuple. Et moi, j'étais frappé, je lisais en venant, ce syndicaliste et défenseur des droits humains qui a pris 1 an de prison à Oran. Donc on a une répression policière qui est extrêmement forte. Et je crois que Emmanuel Macron serait quand même bien inspiré aujourd'hui de condamner ces actes qui ne sont pas acceptables dans quelques pays qui soient.
Raphaël Kahn, une petite question. Est-ce que depuis le début de la Révolution, les relations entre la France et l'Algérie sont au beau fixe ou est-ce qu'elles ont évolué? Vous, à France 24, pour le coup, vous suivez ces élections-là.
Oui, alors on les suit avec plus ou moins de facilité d'ailleurs. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Hein,
vous n'avez pas eu vos visas, vos accréditations.
On n'a pas eu de visa et d'accréditation. Oui, alors même que jusqu'à présent et pendant toute la campagne, et depuis d'ailleurs le début du Irak, depuis le mois d'avril, notre correspondant régulièrement nous fait des points sans aucune difficulté depuis Alger. Mais en revanche, pour envoyer effectivement une équipe à l'occasion de cette élection, ça a été très compliqué, en l'occurrence même impossible. Voilà, mais il y a toujours évidemment ces difficultés. Lorsque c'est la France, c'est plus compliqué parce qu'on est régulièrement renvoyé au rang d'ancienne puissance coloniale.
Hélène Pichowski, le mot de la fin en une minute.
Le mot de la fin, c'est qu'il y a eu, je pense, une immense déception dans le peuple algérien qui mène un combat depuis des mois et des mois. Et d'ailleurs, je dois dire, dans un certain calme, avec, franchement, c'est un modèle de contestation, je trouve, ce qui s'est passé en Algérie. Moi, j'ai vu des images qui étaient très émouvantes avec des jeunes qui défilaient vraiment avec beaucoup, beaucoup de dignité. Donc, vous voyez, et la répression est beaucoup plus dure qu'elle ne l'est pour les Gilets jaunes. Excusez-moi de vous le redire.
Mais il y a une attente très forte.
C'est quand même autre. Et il y avait une attente très forte. Et maintenant, pour les relations, ça va, France-Algérie, ça va être compliqué parce que, effectivement, entre essayer de, comme vous dites, Emmanuel Macron marche sur des œufs. C'est vrai. Parce que être obligé de reconnaître un président élu, même si l'élection n'est pas glorieuse, mais il est élu. Et il est élu contre une grande partie du peuple algérien qui est aujourd'hui extrêmement déçu et amer.
Le peuple algérien qui attend qu'on en parle, nous, médias français, parce que la première réaction des Algériens qui viennent nous voir en plateau, ceux qui vivent en France, mais ceux aussi qui vivent en Algérie, c'est de nous dire qu'il faut parler davantage du mouvement.
Et on le fait dans les informés notamment. Et merci à vous tous, Raphaël Kahn, journaliste à France 24 et présentateur du débat du lundi au vendredi. Hélène Pilichowski, journaliste politique, Thomas Porte, auteur de « Au cœur de la haine », à paraître en janvier aux éditions Arcane 17. Et Geneviève Garrigos, présidente du think tank CERIX. Prochain rendez-vous avec l'information d'ici quelques minutes à 21h. Bonne soirée sur France Info.